C'est aujourd'hui la dernière fois que je vous parle, que je parle pour vous, sous ce titre « Histoire de psychanalyse ». Il y a ce que j'ai dit, jour après jour, qui est passé maintenant, qui est derrière nous. Et il y a tout ce que je n'ai pas dit, qui prend forme maintenant, que j'aurais pu dire aussi bien peut-être, et qui est là, qui insiste à se dire, et qui pourtant ne sera pas. Cela restera à dire. C'est sur ce bord que je suis et que je voudrais parler aujourd'hui. Alors, je dirai en vrac, comme ça me vient, quelque chose de ce que je n'ai pas dit. D'abord, il y a ça, ce quelque chose qui reste à dire. Il y a toujours un reste à dire quand une analyse se termine. Qu'elle ait été brève ou qu'elle ait été longue, le reste est toujours là, et même quand il s'agit d'analyser ne serait-ce qu'un seul rêve, si loin que l'on aille, dit Freud, dans l'analyse d'un rêve, on n'en a jamais fini. Les mots appellent les mots, les pensées, les associations se multiplient, elles se ramifient dans tous les sens, et il demeure toujours, néanmoins, un point obscur qui, lui, ne disparaît jamais. Il faut s'y faire. On n'arrive jamais à la transparence totale. L'élucidation la plus décidée, la plus persévérante, continue d'adhérer à l'inconnu. Tout se passe comme si quelque chose avait été perdu dès l'origine de toute pensée, de tout langage, perdu irrémédiablement et irrécupérable. Pourtant, on avance, ça s'éclaircit, on va de vérité en vérité, des réseaux se déploient, on suit des méandres, on parcourt des labyrinthes, on trouve des issues. Et pourtant, d'une certaine façon, c'est comme si on ne faisait que tourner en rond autour d'un trou invisible. Freud pensait qu'en vérité, on n'en avait jamais fini avec son analyse, qu'une analyse était, en tant que telle, infinie. Selon lui, on ne pouvait que l'interrompre, et puis la reprendre ou ne pas la reprendre si on était satisfait du résultat obtenu, mais en tout cas jamais la terminer à proprement parler. Lacan, lui, en revanche, était persuadé qu'une psychanalyse était bien susceptible de s'achever, de rencontrer une fin authentique. Et il s'est évertué à définir cette fin de beaucoup de façons. Mais dans tous les cas, cette fin, ce n'est jamais la transparence, ce n'est jamais un dernier mot, ce n'est jamais la révélation d'un secret ultime. L'inconscient ne disparaît pas. L'infini, dont parlait Freud, est toujours là. Mais cet infini, on peut le cerner, l'encapsuler, si je puis dire, le faire devenir autre chose, de la même façon qu'en mathématiques, c'est une analogie, on a pu inventer un symbole de l'infini, un nouveau genre de nombre, et se mettre à calculer avec. Eh bien, on pourrait dire qu'à la place de l'infini aperçu par Freud, Lacan a fait venir l'impossible, un impossible que l'on pourrait appeler l'impossible à dire. C'est un reste, ce qui reste de toute une analyse, comme le noyau de votre être, et qui est voué à rester dépourvu de sens, hors sens. Dans une analyse, on part d'une énigme, on la déchiffre, on obtient non pas la vérité, mais des vérités qui changent au fur et à mesure que l'on parle, variable, indéfiniment, et puis, à la fin, on bute de nouveau sur une énigme, sur une opacité, mais définitive. Cette opacité tient à des décalages qui ne se laissent pas résorber. Le décalage entre le désir et ce qui peut s'en dire, le désir à proprement parler, ne s'explicite jamais. Il file toujours ailleurs. Il circule entre les lignes. C'est aussi le décalage entre le dire et le jouir, entre la parole et le corps, d'où résulte toujours, comme un traumatisme originel, ce dérangement du plaisir qui s'appelle la jouissance et qu'entretient la pulsion. Ici, je vois bien qu'en dépit de tous mes efforts pour être clair, et je crois que ces efforts vous sont sensibles, je touche aux limites de ce que j'ai essayé de faire pour vous. J'ai voulu être compris d'emblée. J'ai parlé le langage de tout le monde. J'ai évité tous les termes techniques, les constructions complexes dont on use en psychanalyse quand on parle entre soi des problèmes de la discipline. J'ai employé les mots communs de la langue française. Mais ces mots étaient chargés d'une signification qui, elle, n'était pas commune. Paradoxalement, pour être compris, pour être entendu, il a fallu que je spécule sur le malentendu. Et il en va toujours ainsi. Il y a toujours du malentendu quand on comprend. J'ai donc joué de ce malentendu, non pas pour vous expliquer à proprement parler la psychanalyse, mais pour tenter plutôt un effet de résonance. J'ai voulu ici démontrer en acte qu'une analyse suscite en chacun la vibration de ce dont il s'agit le plus vraiment pour lui. Cela dit, oui, la psychanalyse, on l'explique, on l'enseigne, ou du moins on enseigne ses fondements, ses méthodes, ses problèmes, on étudie son histoire, elle a un siècle derrière elle. C'est une véritable épopée, si l'on veut, qui compte nombre de grandes figures admirables que j'aurais pu évoquer. Si j'ai laissé ça de côté, c'est que j'ai pensé que peut-être je vous aurais donné le goût d'y aller voir. Si je n'ai rien dit des catégories cliniques dont on use en psychanalyse, il y a plusieurs raisons à ça. C'est sans doute parce qu'elles n'ont plus tout à fait l'évidence de jadis. De nos jours, ces catégories, on les mesure au traumatisme dont je parlais tout à l'heure, celui que la parole inflige au corps, et on y voit différentes façons de faire avec. Ce traumatisme n'épargne personne. Aucun de ces corps parlants, aucun de ces par-lêtres, comme disait Lacan, qui constituent ce que l'on appelle l'humanité. Et puis, ces catégories cliniques, c'est le praticien qui a affaire avec et qui doit s'en débrouiller. Ce n'est pas votre affaire, ce n'est pas l'affaire de celui qui vient trouver un psychanalyste. Mais justement, comment trouver un analyste? L'analyste, voilà la catégorie qui intéresse, puisqu'on ne peut faire de psychanalyse sans un psychanalyste. Freud lui-même ne fait pas exception à la règle. L'épisode est bien connu. Tout le temps où il analysait passionnément ses rêves et où il se laissait enseigner par ses premiers patients, qui étaient d'ailleurs surtout des patientes, il était en correspondance étroite avec un ami à qui il se confiait, et cet ami, en effet, avait déjà pour lui la fonction d'un analyste, sans qu'aucun des deux ne le sache. Toute cette histoire de psychanalyse est venue de là. Un analyste se forme auprès d'un analyste. Les analystes forment les analystes. Ils les nomment et ils les agrègent dans leurs associations. Eh oui, cela se passe entre eux. C'est comme ça depuis maintenant un siècle. Il n'y a pas à sortir de là. Dans aucun pays au monde, il n'existe de diplôme de psychanalyse. Il ne s'agit pas d'un hasard ni d'un oubli. Cela tient à l'essence même de ce qu'est la psychanalyse. Peut-on imaginer un examen universitaire qui jugerait de la capacité à être analyste? En quoi pourrait-il bien consister? Bien entendu, on ne peut pas analyser quelqu'un en public. L'exercice de la psychanalyse est réservé à la confidence la plus intime, à la confiance que quelqu'un accorde à un analyste. Personne d'autre ne saurait s'immiscer dans cette relation sans qu'elle ne soit altérée et en fait dissoute. Peut-on imaginer que les interprétations de l'analyste soient recueillies et constituent un matériel d'examen? Ce serait absurde, et personne ne s'y sait essayé. Ce que dit l'analyste ne vaut que dans la relation de parole que j'ai décrite. Une interprétation analytique n'est pas convaincante en elle-même. Ce qui compte, ce n'est pas son contenu, sa signification abstraite, mais sa fonction dans l'instant où elle est proférée et les effets imprévisibles qu'elle suscite chez celui qui la reçoit et dans le contexte même de cette relation, à nul autre pareil. La qualité de psychanalyste ne peut pas être attestée par un examen public. Elle peut seulement être garantie après coup sur la base de la régularité de sa pratique et dans un cadre qui est associatif, c'est-à-dire dans une sorte de huis clos où s'enferment de petites communautés de travail. Ce sont autant de villages où tout le monde se connaît et où les cas, comme on dit, sont contrôlés, discutés, critiqués. Ce travail interne, de toute nécessité, doit rester opaque au public en général, pour protéger la confidence sans laquelle il n'y a plus de psychanalyse. Lacan raconte qu'un jour un de ses collègues lui fit ce compliment. « Vous êtes un psychanalyste né. » C'était un hommage. Pourtant, Lacan le déclina poliment. Sans doute peut-on avoir plus de disposition pour tenir cette place. Une certaine distance avec l'idéal, avec ce qui est reconnu, admis, figé, bien identifié. On constate plutôt chez les analystes une proximité, une affinité, une sympathie avec ce qui est exclu ou raté, voire paumé. On trouve chez eux, disait Lacan, une marque, celle du rebut, à l'envers de l'idéal. Mais il n'empêche, il n'y a pas de psychanalyste né. Pour faire au moins ce point d'histoire, dès 1910, on recommanda à l'analyste de s'analyser, pour qu'il ait lui-même l'expérience des phénomènes que son patient aurait à connaître, un peu, si l'on veut, comme Pasteur s'inoculant la rage, si j'ose dire. Puis, avoir été analysé devint une condition sine qua non pour être analysé. Enfin, Lacan vint, qui définit le psychanalyste comme le résultat de sa propre analyse. On est analyste quand on a trouvé par son analyse la sortie hors de ses propres impasses. Au moins, c'est l'idée. D'où ce nom, la passe, que j'ai déjà prononcé ici, et qui désigne une pratique jusqu'alors inédite dans la psychanalyse. Un analysant dans le moment même où il s'autorise de l'analyse qu'il a faite pour commencer de pratiquer à son tour l'analyse, peut, s'il le désire, livrer son cas et ses raisons à des congénères choisis par une association. Ceux-ci font sur son témoignage un travail aussi minutieux que discret. Ils doivent authentifier quoi ? Que ses symptômes ont bien été déchiffrés, que ses fantasmes, voire ce qu'on appelle son fantasme fondamental, ont été percés à jour, que son désir et sa jouissance à lui ne vont plus interférer dans sa pratique, dans son écoute et dans ses interprétations. C'est la condition pour qu'il puisse analyser de façon authentique. C'est alors une contribution originale au dossier infini de la question « Qu'est-ce qu'un analyste ?» Personne ne peut dire ce que serait le psychanalyste en tant que tel. Le psychanalyste n'existe pas. Il n'y a pas d'essence du psychanalyste. Il y a des analystes qui adviennent un par un, par des voies qui sont particulières à chacun et par une analyse dont la trajectoire est toujours imprévisible. Si un analyste, c'est essentiellement quelqu'un qui a été analysé jusqu'au bout, alors la formation analytique, c'est avant tout la cure analytique elle-même. C'est le sens de la boutade de Lacan, il n'y a pas de formation analytique, il n'y a que des formations de l'inconscient. Former quelqu'un, ce serait le soumettre à un idéal et lui imposer une identification. Dès lors que la cure analytique est un processus de désidéalisation et de désidentification, le nom de formation ne convient plus vraiment. De fait, l'école de Lacan n'organisa jamais rien qui ressemblât à un cursus. Lacan voulait des analystes qui fussent aussi des savants, mais qui sachent mettre entre parenthèses compétences et connaissances pour accueillir ce qu'il y a d'original, d'inouï, dans chaque cas nouveau. C'est ce que résume la formule « savoir ignorer ce qu'on sait ». L'école est précisément le lieu géométrique où convergent tous ces paradoxes. C'est un lieu de savoir, mais ordonné à un non-savoir, car là, personne ne prétend détenir le savoir de ce que c'est que l'analyste. Ce savoir, il faut à la fois le chercher et le construire, l'inventer, et en définitive, ne pas s'en satisfaire. Donc, pas de cursus, pas d'itinéraire standard, pas de forme idéale, pas de pédagogie, pas de maîtrise, mais l'immersion dans un milieu qui est toujours agité par le défaut de savoir ce qui plus lui importe. À chacun de nager comme il peut, à chacun son système D. Ce n'est plus une formation, c'est au-delà de la formation. C'est un mode de vie. Pour constituer un tel milieu, il faut le nombre, la pluralité des publications, la multiplication des échanges. L'école de Lacan, dans ce qu'elle eut de meilleur, fut ainsi.